Bah donc à mon tour de, enfin à notre tour, je pense que tu remercieras aussi Alexis, Yasmine pour l'invitation. Déjà, je voulais commencer par, bon, tout le monde l'a fait, mais c'est important de le dire, de saluer les éditeurs, notamment parce que je sais d'expérience que ce genre de travail de traduction est long, coûteux, fastidieux, minutieux, et en même temps très utile pour les sciences sociales. Par ailleurs, moi, j'étais particulièrement intéressé de relire, par exemple, le papier que tu viens de discuter, un grand intérêt de le relire en français, parce que c'est des textes qu'on avait pu éventuellement lire en anglais. Vous nous les aviez envoyés quand on travaillait sur notre propre ouvrage. Et évidemment, tout de suite, on perçoit mieux toute une série de nuances quand on peut lire dans sa langue maternelle. Donc, ça montre aussi, je trouve, tout l'intérêt de, enfin, il y a toute une série de nuances que j'avais évidemment pas perçues en lisant le papier en anglais. Alors, aussi parce que je suis pas très bon en anglais, mais je pense que c'est souvent le cas des Français. Et donc voilà, et donc un grand intérêt à relire ça en français. Par ailleurs, ça rend justice au travail de collègues qui sont très partageurs, que quand on sollicite pour échanger, pour avoir des références, sont réactifs, sont engagés dans la discussion, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres collègues et qui est aussi très intéressant en termes d'échanges intellectuels. Et donc, je trouve que c'était aussi bien de rendre justice au travail qui mènent et à la manière dont ils conçoivent les échanges avec les chercheurs étrangers, notamment français. Alors moi, je vais pas faire du tout. Enfin, parce qu'avec Alexis, je pense qu'on peut dire qu'on n'est pas des spécialistes du Portugal, donc on peut pas du tout faire le même type de discussion que vous. Donc moi, j'ai plus dire d'une part l'intérêt que j'ai eu à lire une partie du livre, et puis poser quelques questions, mais plus d'ouverture en fait. Voilà, donc vous prendrez ce que vous voulez dans mes questions. J'espère aussi qu'elles seront à peu près clair, vu que on va pas se cacher que la discussion, enfin que j'ai fait ça dans la nuit, donc voilà, j'espère que ça sera clair. Alors moi, voilà, le livre, je trouve il y a un triple intérêt de, enfin moi j'en tiens un triple intérêt. D'une part, c'est de documenter en langue française des éléments sur la structure sociale d'un pays de l'Union européenne, qui plus est assez proche de la France. C'est très utile car, notamment quand on travaille un peu de manière comparative pour nous, parce que c'est assez rare. Finalement, on n'a pas, même pour d'autres pays et même des pays assez proches, de volume qui dresse un peu une synthèse des transformations sociales et des rapports de classe qui puissent être accessibles en langue française. Donc, soit il faut aller lire des papiers en anglais quand ils existent, soit on est en difficulté quand on maîtrise pas la langue. Donc, évidemment, je trouve, enfin nous, voilà, quand on a fait le travail sur les classes sociales en Europe, à chaque fois, on disait bon, on a nos résultats, mais on a besoin de ce type de travaux pour comprendre, expliquer, voilà. Donc c'est quand même hyper hyper utile de ce point de vue-là, d'autant plus que c'est assez rarement fait. Le deuxième intérêt, c'est que ça donne à connaître des travaux qui sont issus de certains courants de la sociologie portugaise. Donc vous avez raison de le replacer aussi dans, c'est pas toute la sociologie portugaise, c'est une partie, mais qui est intéressante pour nous aussi parce qu'elle s'inspire de travaux français. Donc elle importe des concepts avec lesquels on peut être assez familier, notamment les travaux de Pierre Bourdieu. Et donc c'est assez intéressant de comprendre les formes d'importation de ces théories et des méthodes sociologiques qui sont utilisées, mais aussi des innovations qui peuvent être faites à partir de ces méthodes-là. Alors notamment une innovation qui est d'ailleurs soulignée par Nicolas Reynaï dans sa petite introduction, mais c'est le fait d'avoir une analyse très localisée des rapports de classe et d'utiliser les méthodes statistiques, donc l'analyse géométrique des données, sur ces espaces-là. Et donc d'avoir ces ACM, mais sur des quartiers. Donc c'est assez intéressant parce que, comment dire, on a les logiques de confrontation, enfin de rapports de classe, mais en plus ils sont physiques, c'est-à-dire que c'est l'espace des lieux dans lesquels ils se confrontent. Donc là, c'est un apport, je trouve, assez fort par rapport à ce que nous on peut faire, ce qui a été fait en France. Il y a assez peu d'exemples là-dessus. Il cite effectivement l'exemple de l'enquête de Gaulac et Desrosières à Amiens au début de, enfin à la fin des années 80. 70, pardon. Voilà, mais à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples de ça. Et donc ça c'est des apports, je trouve, voilà, qui nous permettent de montrer qu'on peut enrichir aussi nos propres méthodes et nos propres outils conceptuels. Et donc au-delà de ça, ça nous interroge de fait sur nos propres méthodes. Donc je le disais, une des spécificités des méthodes que vous utilisez, je trouve, c'est le fait d'articuler des données statistiques assez macro avec des enquêtes par questionnaire assez localisées. Et puis ensuite l'observation et de l'ethnographie, enfin, entretien ou observation. Donc nous, on a les deux bouts de la chaîne. Souvent, on a moins le maillon intermédiaire. Donc, j'avais moi une première question, c'était un peu de revenir sur quand est-ce et comment ce format d'enquête s'est imposé, un peu standardisé. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui est lié essentiellement à votre groupe de recherche, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus généralement utilisé dans la sociologie portugaise? Et en lien avec ça, aussi de revenir peut-être sur les liens. Est-ce que c'est lié à la difficulté de travailler avec l'Institut statistique portugais? Parce que en France, souvent, peut-être, on ne le fait pas aussi, parce qu'on peut avoir des données un peu localisées quand on bosse sur des quartiers, etc. Est-ce que là, ce mode d'enquête pallie aussi le fait qu'il y ait des différenciations, enfin assez peu d'échanges entre la statistique publique et les sociologues qui travaillent notamment sur ces questions de structure sociale. Troisième intérêt du livre pour moi, c'est que donc c'est une sociologie des classes qui s'intéresse aux rapports de force symboliques, aux distinctions culturelles, spatiales, et qui pour le faire part des positions socioprofessionnelles. Donc il y a une importation des travaux de Bourdieu, mais sans évacuer la question de l'ancrage professionnel et social, ce que d'autres courants qui aujourd'hui importent les travaux de Bourdieu ont tendance à faire. Et notamment, nous on est un peu pris dans les débats avec les sociologues britanniques autour de Mike Savage, qui travaillent sur ces questions des classes sociales, et ils ont largement, pas totalement, mais c'est vrai que la question du rapport au travail, des conditions de travail, des conditions d'emploi, hein, est relativement marginalisée dans leur approche, tout en affirmant faire un usage très rigoriste et orthodoxe des concepts de Bourdieu. Donc il n'y a pas longtemps, on a fait venir un sociologue qui s'appelle Atkinson, qui est un Britannique qui est critique de ce point de vue-là. Une autre question un peu d'ouverture, c'était comment vous positionnez par rapport à ces travaux qui, dans d'autres espaces européens, importent les concepts de Bourdieu, qui travaillent sur les classes sociales, mais avec une lecture un peu différente de celle que vous faites. Alors, quelques autres éléments, mais si je suis trop long, c'est plutôt Alexis qui doit me dire stop. Bon, je vais pas revenir, mais ça a été dit, vraiment, vous dressez un paysage très foisonnant et complexe des transformations sociales et culturelles au Portugal, les effets de la désindustrialisation, les effets du développement des emplois de service à Porto, ce que tu viens d'expliquer sur l'émigration des ouvriers du BTP en Espagne, ça. Donc, ça permet vraiment, en plus, de documenter toute une série de pièces, toute une série d'éléments de transformation. Donc, c'est assez complet, même si c'est vrai que c'est centré sur une partie du Portugal. Donc, moi, j'avais des questions, notamment en lien avec ces travaux-là sur l'émigration. Qui renvoie aux questions que nous on se pose sur nos travaux. J'avoue que j'ai lu à partir de mon propre questionnement. C'était sur comment l'européanisation des flux de travailleurs reconfigure ou pas les rapports de classe. Donc on voit très bien dans le papier les effets que ça a sur les rapports de classe au Portugal, c'est-à-dire que ce mouvement pendulaire là que vous décrivez, on voit bien comment ça les sort de certaines sociabilités, comment ça divise ces fractions ouvrières, et donc les effets que ça a quand ils reviennent, à savoir quand ils reviennent ponctuellement, et puis après quand avec la crise, ils sont obligés de revenir de manière plus temporaire. Mais je me demandais en quoi ça jouait sur les rapports entre ouvriers portugais et espagnols, et entre les ouvriers portugais et la confrontation à l'encadrement ou au cadre en Espagne. Voilà, est-ce que vous avez des éléments là-dessus, sur cette expérience des rapports de domination au-delà des frontières nationales, mais qui en même temps sont ils restent pas tout le temps, ils reviennent en permanence au pays. Donc, est-ce qu'on pourrait parler, voilà, d'une forme d'européanisation de ces rapports de classe? En tout cas, comment c'est perçu? Donc ça, c'est un premier élément. Et éventuellement, les implications politiques que ça a sur les rapports que ces ouvriers peuvent avoir à l'Union européenne. Alors, quand il y a eu la crise, nous, les travaux qu'on avait vus, c'était que les mobilisations qu'il y a eu en Espagne étaient quand même, il me semble, assez centré plutôt sur les classes moyennes du public, en lien avec la dénonciation de l'austérité, et puis plutôt les jeunes générations qui subissaient la précarité. Et voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres formes de mobilisation? Enfin, quel effet politique ça a, ce type de transformation des rapports sociaux par le biais de ces migrations. Ce qui m'amène à un point, c'était, alors, on a eu beaucoup, ouais, faut que je raccourcisse. Ok. Juste un point sur nous on a eu beaucoup de difficultés à situer les classes populaires portugaises dans l'espace européen. Très souvent, ce qui est fait médiatiquement dans les discours, l'Union européenne, très souvent, c'est associé aux autres pays du Sud. Bon, vous avez tous en tête l'acronyme, les PIGS, hein, c'est très stigmatisant, qui envoient Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Hein, c'est, voilà. Et nous, quand on a travaillé sur nos données, si on regarde, par exemple, le poids des classes populaires dans ces pays-là, il y a des proximités. Si on regarde le rôle des sociabilités, des solidarités familiales, il y a des proximités. Et en même temps, sur toute une série d'autres éléments, on repérait plutôt des proximités avec les classes populaires des pays de l'Est, en tout cas d'une partie des pays de l'Est. Alors, par exemple, sur le poids toujours très important de l'agriculture, même s'il a décliné, qui reste quand même assez important au Portugal, aussi sur le fait que les niveaux de revenus et d'études sont bien moins élevés au Portugal que, par exemple, en Espagne ou en Italie, et beaucoup plus proches de certains pays de l'Est. Par exemple, on avait été assez étonnés, mais sur les taux d'équipement, avoir un ordinateur, c'est beaucoup plus proche de certains, ouais, de la Roumanie, par exemple, que de l'Espagne, que de l'Italie. Donc voilà, est-ce que vous avez fait ce type de comparaison? Enfin, comment on peut positionner ces classes populaires par rapport à l'espace européen? Et j'arrête.
Merci. Bon, on avait 15 minutes à deux, mais là, il y a déjà 15 minutes, donc je vais quand même juste prendre 5 minutes, voilà, pour aborder, pour compléter, enfin, pour prolonger un peu la discussion d'Étienne, et puis aborder des points qui n'ont pas encore été abordés et donner l'occasion de rendre compte de tous les aspects du livre. D'abord, Étienne en a parlé sur... ce qui nous avait paru saillant dans les mobilisations et dans les mobilisations européennes, ou en tout cas ce qu'il en reste, c'est l'importance des classes moyennes du public. Et là, du coup, c'était peut-être une première question. C'est dans cet ouvrage, évidemment très centré sur les classes populaires, on voit beaucoup moins en fait que ce qu'on peut voir dans d'autres pays, notamment en France, mais pas seulement, le clivage entre public et privé. Et donc voilà. Donc c'était peut-être une première question pour introduire une discussion qui va essentiellement tourner sur alors non pas la question des classes sociales, enfin, parce que Étienne en a déjà beaucoup parlé, mais plutôt sur la question de l'État et du rapport à l'État. Et donc premier point et première question sur le alors là c'est plutôt le chapitre sur la démocratisation scolaire que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui s'appelle les contradictions du processus éducatif, où on comprend que ce qui se passe au Portugal, en fait, en termes de démocratisation scolaire et de massification, c'est en gros ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais sur une échelle de 20, 30, 40, 50 ans. Et là, tout est en accéléré, en fait, dans une période extrêmement courte. Et donc, on retrouve, en fait, des choses qu'on connaît, qui sont des effets de la massification, et notamment le sentiment de déclassement des enseignants que ça induit dans le rapport au scolaire. Mais du coup... Il y a plusieurs aspects aussi qui en découlent. En termes de recomposition des hiérarchies sociales par le capital scolaire, un recul du paternalisme, dévalorisation des cultures ouvrières et industrielles. Et, Du coup, la question que je me posais, et qui est assez peu abordée dans le livre, c'est quel effet sur les rapports de genre au sein des classes populaires, en fait. Parce que une des choses qu'on avait constaté aussi au niveau européen, et qu'on pourrait documenter dans différents pays, et qui vaudrait le coup d'être documenté, c'est que il y a quand même une situation anthropologique relativement nouvelle dans un certain nombre de pays. C'est l'augmentation donc du niveau de qualification des femmes, la scolarisation massive, et qui a des effets quand même considérables, notamment au sein des classes populaires. Et moi, je connais pas. Enfin, encore une fois, c'est vrai, on n'est pas spécialiste du Portugal, mais dans un pays où la domination masculine quand même a beaucoup pesé, voilà, on a envie de cette question des rapports de genre est finalement assez peu présente. En particulier sur la massification scolaire, je trouvais que ça pouvait être intéressant. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect que ça induit, c'est aussi en termes de rapport entre générations, évidemment. Parce que quand une démocratisation et massification scolaire a lieu dans une période aussi ramassée, ça induit, à mon avis, des rapports entre ce qu'on pourrait dire les jeunes et les vieux qui implique beaucoup plus que des rapports d'âge, mais des rapports de socialisation justement au capital scolaire et qui, à mon avis, ont beaucoup de voilà. Donc c'était pour ouvrir la discussion là-dessus. Le deuxième aspect, je vais aller vite, hein, c'est sur la dérégulation économique, les transformations de l'État social. Alors là, ça, on voit très bien, et ce que ça appelait, enfin, comme remarque à la lecture, c'est que on voit très bien. Notamment dans le chapitre sur la destruction de l'habitat social, enfin, et des expériences de relégation urbaine, le reflux des services publics, l'explosion des formes de travail précaires, la mairie de Porto, enfin, que ça soit le public, alors à la fois les services publics éventuellement de l'État central, mais aussi les services publics municipaux. Et on a le sentiment vraiment que on a en fait au Portugal le reflux d'une puissance publique dans un pays où elle n'a jamais été très présente, où elle a commencé à l'être un peu, et où en fait elle se retire, et ce qui est tout de suite interprété comme une réorganisation de l'État. De l'État pénal, en fait, renforcement de l'État pénal et reflux de l'État social. Et là, la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que donc c'est la grille de lecture de Vacan qui est appliquée au Portugal dans le chapitre 9, voilà. Et la question que ça appelait, c'est que c'est vu uniquement du point de vue, là pour le coup, du réagencement des institutions étatiques. Et la question que ça appelait, c'est du point de vue des classes populaires, en tout cas, puisque c'est au cœur du livre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réorientation des classes populaires, de demande d'État pénal? Et voilà, comment ça se situe, enfin, ce rapport à l'État pénal et à l'État social? Je trouve que on aimerait en savoir en fait un peu plus, et ça appelle à mon troisième point, là aussi qui m'a, troisième remarque ou troisième ouverture, je ne sais pas comment il pourrait dire, ou troisième question, et ce sera la dernière, rassurez-vous, sur l'effacement des solidarités collectives. Ça, je trouve que c'est frappant tout au long du livre. On pourrait dire effacement des solidarités collectives et aussi effacement des formes de mobilisation politique. Alors d'abord, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que la politique, elle est présente, la dimension politique et elle est présente dans le livre, pas seulement en termes de mobilisation, mais notamment la dernière partie, en fait, hein, qui est une partie exclusivement consacrée aux politiques. Mais en même temps, ce qui est frappant, c'est que en termes de mobilisation, c'est plutôt sur les périodes passées, en fait, hein, c'est les années 50, les années 60, évidemment la révolution des œillets, et finalement sur la politique aujourd'hui. Alors c'est pas des mobilisations, parce que quand on parle des classes populaires, quand on parle des classes sociales, évidemment il y a une dimension politique, et ça c'est rappelé par l'introduction de Yasmine, mais on a plutôt le sentiment et je reprends les termes de certains auteurs, hein, d'une démobilisation collective, dévitalisation sociale des espaces de mobilisation, de sociabilité, où dans ce quartier de relégation, la démolition apparaît comme la seule issue possible, ce qui est quand même pas le signe d'une mobilisation politique très très positive et très forte. Et du coup, voilà, juste pour terminer, pour reboucler sur une remarque de Gérard Mauger ce matin, comment penser cette impression de lecture qui au terme de l'ouvrage, hein, d'un recul de la mobilisation politique, avec la remarque de Gérard Mauger ce matin en termes de résultats électoraux, où on a au contraire le sentiment que politiquement, électoralement, on a une mobilisation électorale de la gauche, et dans un contexte européen où quand même le Portugal apparaît plutôt comme atypique de ce point de vue-là. Et voilà, ça implait. Alors c'est peut-être évidemment c'est quelque chose qui est pas présent dans le livre, et puis on peut pas tout aborder, mais enfin pour moi c'était vraiment une interrogation, disons ce hiatus entre le sentiment d'une forte démobilisation des classes populaires, aussi une forme de résignation, ça a été dit dans le texte de Vincent Dubois, il le dit aussi, hein, cette production sociale du consentement, etc. Et puis en même temps, cette connaissance lointaine qu'on peut avoir du Portugal par le biais de la mobilisation électorale, qui donne plutôt un sentiment différent. Voilà.
Un très grand merci. Les cas, je pense que c'était très complémentaire et varié. Donc je vous propose de prendre une première série de réactions et de réponses. Alors, vous ne pourrez pas répondre à tout, nous n'avons pas une semaine devant nous, mais vous pouvez choisir quelques points. L'idée, c'est aussi d'amorcer des discussions qu'on continuera par la suite. Vous pouvez prendre chacun la parole à tour de rôle, et après on prendra une nouvelle série de questions de la salle. Vous pourrez répondre une deuxième fois, puis ensuite on ira déjeuner. Vous aurez qu'on s'arrête dans trois quarts d'heure à peu près pour aller manger.
Mais c'est à nous de répondre,
c'est à eux. Non, c'est à eux.
Et qu'on change.
Non, c'est pas nécessaire. Je vais vous passer le micro. C'est mieux, je pense, pour l'enregistrement.
C'est une blague quand on est là, en fait.
Après, je passerai. Mais bon, je voudrais remercier les quatre, commencer par ça. C'est vraiment une lecture attentive et très, très intéressante. Les questions posées, elles sont vraiment des très bonnes questions. Et malheureusement, le livre, il est déjà grand, et on voulait mettre quelque chose en plus là-dedans pour essayer de répondre à beaucoup des questions qui ont été posées, parce qu'elles sont bien sûr pertinentes, mais on a eu besoin de faire une gestion délicate de l'espace disponible. Mais de toute façon, je vais essayer de répondre à certains aspects, et surtout après je passerai aussi bien sûr à Bruno et à Joan. Le micro pour donner aussi leur contribution. Victor, il a raison. Je ne dis pas vraiment. À propos de la discussion sur l'histoire de la sociologie portugaise, je suis toujours très sensible à l'histoire même de José Madureira Pinto, qui a été le premier docteur en sociologie formé dans le pays. Donc je suis toujours très sensible à l'histoire qu'il raconte, pas à beaucoup de monde, mais à l'histoire de l'aventure académique qui a été l'autorisation du titre de docteur en sociologie du point de vue institutionnel. Il a terminé sa thèse en 81, mais il a soutenu seulement en 83, et cela dit déjà quelque chose à propos du processus bureaucratique et institutionnel lié à la production du titre. Il y avait vraiment une résistance institutionnelle au mot sociologie et à ce qu'il désignait en tant que discipline. Bien sûr, il y avait une certaine tradition, c'est vrai, on le connaît bien. Il y avait une tradition leplésienne liée au fonctionnement de l'État nouveau. L'histoire d'anthropologie, c'est vraiment différente à ce propos. Mais je pense que, du point de vue des institutions, il y avait une résistance, et une résistance académique importante qui était aussi une... Bien sûr, il y avait le groupe de Cedres Nunes où José Madureira Pinto a commencé, avec beaucoup d'autres, mais de toute façon, je pense que on peut pas, on doit être sensible à l'expérience même de l'affirmation de la discipline qui n'a été pas facile du tout de tout. Donc et cela explique un peu aussi bien sûr les divisions après l'affirmation de la discipline. Cela a aussi un rapport avec les divisions en matière de degré d'intensité de l'analyse sociologique. On parlait, il y a un texte de Madurepint qui parle de ça. C'est une vieille lutte de Madurepint et Jean-Frère Lalmède à propos de l'intensité de l'analyse sociologique. Et cela explique aussi un peu l'affinité qu'ils ont eue au début de leur carrière, où ça ne serait pas évident, forcément évident, avec la sociologie de Bourdieu qui était en formation et en affirmation à l'époque. Ces deux sociologues et son groupe, ils ont fait une réception assez précoce, point de vue international, de la sociologie de Bourdieu. C'est pas du tout fréquent dans le monde quand on regarde. Et cela, je pense, a joué aussi des conséquences dans l'affirmation d'une certaine pratique du métier de sociologue qu'ils ont promue. Mais je pense que Bruno, il vient d'écrire récemment plusieurs textes sur l'histoire de la sociologie portugaise. Il pourra aussi reprendre mes arguments à ce propos. Qu'on a beaucoup discuté ensemble, c'est vraiment un sujet important pour nous. Victor, son travail il est vraiment important à ce propos, et ses remarques et ses pistes sur plusieurs aspects de la question de la politique qui sont toujours très présents chez nous. Il a raison, on pratique en matière de rapport entre histoire et sociologie, on a conscience qu'on pratique un métier et une ligne d'analyse qui est assez différente de ce qui est le point de vue dominant en matière à ce niveau dans les sciences sociales du pays. Bon, mais je pense que c'est un chemin intéressant où il a beaucoup... Victor, il a raison. Il y a cette concentration à ce niveau-là a des conséquences en matière de production, et on néglige plusieurs aspects qui restent inconnus de la structuration de l'espace social portugais et même du rapport aux institutions, qui donne origine à beaucoup de mythes à propos de l'histoire de la dictature et du rapport des Portugais à l'État. Je pense que cette ligne-là, il y a beaucoup de choses à faire, et j'espère qu'on pourra continuer. Bon, à propos, je remercie aussi beaucoup la lecture d'Irène. Les travaux des anthropologues portugais, ils ont été influents dans les travaux d'origine. On n'a pas choisi par hasard la présentation du première étude que João a fait. Il a joué un rôle fondamental à la même époque que Madre Pinto et João Freire Lamede faisaient leurs études. Pina Cabral faisait les siens, mais Brian O'Neill faisait aussi son travail sur le village de Trás-os-Montes où qu'il a travaillé, et bien qu'il travaillait sur un point de vue de la stratification sociale, les travaux, ils sont à plusieurs aspects compatibles, et donc je pense aussi que c'est une autre anthropologie que la révolution produira, donc les générations des nouveaux anthropologues portugais, et pas seulement portugais, mais qui ont marqué l'anthropologie. Il y avait un rapport intéressant entre cette pratique sociologique de terrain. Elle était informée, je crois, pas seulement par un point de vue théorique et un point de vue sociologique, conformé par une vision sans monomanie méthodologique, mais très, très influencé aussi par un dialogue avec les anthropologues. Donc, c'est une présence importante sur ce point. Et je n'ai pas du temps pour dire tout, mais je voulais seulement répondre à cette observation sur la question. On a maintenant une étude sur les. On a l'étude en cours sur l'expérience du travail dans l'industrie du bâtiment à Lisbonne, où cette présence migratoire, elle est plus évidente. Dans le nord-ouest du Portugal, elle est moins évidente. Grâce à la structure de l'espace social de beaucoup de ces villages qui sont autour de Porto, mais de toute façon, il y a des présences migratoires, mais elles sont bien moins visibles qu'à Lisbonne. Maintenant, on a ce travail en cours. On ne parlera pas encore aujourd'hui de ce travail, mais on espère de le publier prochainement. Et on a déjà des conclusions provisoires qui renforcent beaucoup des choses qui on savait déjà, mais où nous croyons les différences sont notables. Il y a à Lisbonne le fonctionnement de l'industrie du bâtiment, elle structure d'une façon très très différente ce qu'on trouve à l'intérieur, surtout au nord du Portugal. Donc il y a, mais c'est une chose dont je pourrais donner des détails un peu après. Mais de toute façon, c'est une très bonne remarque et on essaiera de la répondre dans une prochaine recherche. Bon, les pistes, les commentaires d'Étienne et d'Alexis, bon, ils sont très très riches aussi. Cela aussi en rapport avec les remarques d'Irène. La première question d'Étienne. À l'origine, je pense que le défi, c'était vraiment ce défi d'une analyse d'intensité fine de la nature de la structuration des processus sociaux locaux. Et donc ça, c'était le défi passé par là. Et donc, Madrid Pinto, Jean-Frédéric d'Almeida, il n'envisageait pas une autre alternative pour développer une analyse sociologique que celle qui passait par l'articulation entre le quantitatif et le qualitatif, pour le dire d'une façon rapide. Bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes dans le fonctionnement de l'appareil statistique. Et je pense aussi, bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est bien plus facile de travailler avec l'appareil statistique national, mais on continue à avoir des difficultés. Les statistiques publiques, elles sont disponibles, mais ça nous donne beaucoup de travail. Ça nous donne toujours beaucoup de travail, bien qu'il y a des dialogues importants. Mais de toute façon, pour avoir des réponses d'intensité fine au genre de problèmes dont Madrid Pinto et Fred Almeida voulaient avoir des réponses, il faudrait avoir des instruments qui étaient contrôlés directement par l'équipe de chercheurs. Et donc cela est un peu à l'origine de cet intérêt de toujours pratiquer, je ne conçois pas une autre façon, mais c'est de pratiquer une approche de multiméthode. Donc ça fait partie de l'habitus professionnel. Donc ça, et je pense que ça aussi, c'est... Bon, là aussi, pour répondre à la troisième observation, pour eux, à l'époque, et pour nous aussi, l'importance des divisions socioprofessionnelles dans la structuration de l'espace social, elle est décisive. Et donc, on ne sait pas faire d'une autre manière. Donc, Il faut retirer des conséquences des divisions sociales, surtout dans une société comme la portugaise, où les divisions sociales sont importantes. Analyser l'espace social sans retirer des conséquences des divisions socio-professionnelles, ça ne serait pas possible pour nous. Donc ça, j'ai toujours beaucoup... Bon, je connais les travaux de Mike, je connais très bien Mike, je suis proche... beaucoup de choses qu'il fait, mais à ce niveau-là, on est plutôt du côté des divisions socio-professionnelles et du besoin de travailler avec détail ces divisions pour comprendre la structuration de l'espace social. Bien sûr, on peut le faire d'une autre manière, mais quand on le fait d'une autre manière, on n'a pas publié les études là, mais quand on produit des analyses d'espaces de style de vie ou des espaces de prise de position sociale, et qu'on essaie de voir quel est l'ancrage social de ces espaces-là, les rapports avec l'espace social et avec l'espace socio-professionnel, il fait du sens. Donc, bon, de toute façon, il faut dire que la société portugaise, c'est une société, c'est un bon défi de point de vue sociologique. Elle est très complexe. Beaucoup, je ne vais pas monopoliser la discussion, mais de toute façon, les implications, les divisions sociales sont vraiment multidimensionnelles et même quand on analyse, pour le dire rapidement, les classes populaires, les divisions internes, elles sont aussi significatives. Donc, il faut toujours, de la même façon qu'on fait le pari d'analyser l'espace social à partir d'un point de vue localisé, on essaie aussi de retirer des conséquences de ce point de vue géométrique pour des groupes sociaux, pour des classes sociales qui, habituellement, on penserait comme homogènes. Donc, elles ne sont pas homogènes du tout. Il y a des divisions importantes. Bien sûr, ce sont des divisions significatives, et cela pourrait donner seulement quelques pistes à propos de ce qu'Alexis avait dit. Bien sûr, c'est pour cela qu'on parle beaucoup de recomposition sociale. Et à l'intérieur des classes populaire, pour le dire aussi de cette façon. Bien sûr, des divisions importantes, pas seulement en termes de génération, mais bien sûr en termes de recomposition du capital scolaire. On discute fréquemment dans le cadre de ce projet de comparaison les effets des années de scolarité en plus, en supplémentaire au Portugal, et le rapport de ces années supplémentaires, même quand ils sont petits, dans l'espace social, ils sont significatifs. Donc, la division, et donc il faut, et par exemple, une recomposition importante qui est en cours maintenant, c'est précisément cette recomposition du capital scolaire des filles par rapport au capital scolaire des garçons dans les nouvelles générations, où les écarts sont... On le voit bien, par exemple, dans la revisite. On le voit très très bien dans les cohortes plus jeunes où les filles de ce village anciennement paysan sont plus scolarisées que les garçons qui se spécialisent, et cela est à l'origine de notre recherche sur les ouvriers du bâtiment et sur les migrations où les jeunes sont moins scolarisés. Donc cela ouvre des portes différentes en matière de construction d'une position sociale pour eux. Et après, ça aura aussi des conséquences à l'intérieur de la famille, mais je laisse ça pour une autre occasion. Bon, je ne pourrais pas tout dire, mais de toute façon... Oui. Je vais seulement dire, seulement pour terminer, à propos de la crise, j'espère qu'on aura du temps pour écrire quelque chose à ce propos, mais de toute façon, du point de vue pratique, il y a une sortie qui, dans un premier moment, s'affirme comme une espèce d'antériorisation, presque une sorte d'individualisation des stratégies. Donc il faut, notamment dans les milieux plus démunis de l'espace social, mais de toute façon, le gouvernement socialiste, il n'est pas un produit de hasard. Donc, et surtout, peut-être une des plus importantes transformations politiques du Portugal contemporain après la Révolution, c'était, on parle beaucoup de la division gauche-droite au Portugal, mais pour moi, la division, elle était entre le Parti socialiste et la gauche. La fin de cette division, a une signification sociale et politique. Donc, on va avoir des élections en octobre, on va voir comment ça marche. Mais de toute façon, avec toutes les mots, il y a eu des mobilisations, bien sûr, pendant l'intervention de la FMI et de la FMI, la BCE au Portugal. Le gouvernement socialiste, il est aussi une conséquence de ces mobilisations, même si elles ne sont pas, si elles ne sont pas apparemment spectaculaires comme on voit dans d'autres pays. Bon, je m'arrête et je m'excuse pour tout. Mais les questions, elles sont très très riches et donc.
J'essaierai de répondre. Non, pas de problème. Sur la question des données statistiques, bien sûr, il y a des limitations qui sont inscrites dans le propre fonctionnement des institutions, mais je voulais aussi salienter deux autres questions. Premièrement, pour les classes populaires, pour ainsi dire, pour les ouvrières, il y a aussi, pour moi, des autres types de limitations. Un, est-ce que les enquêtes officielles, ils sont myopes dans certaines formes de valeurs de ces ouvriers-là? Ils n'enregistrent pas des formes de valeurs qui sont très valables, très importantes dans les communautés que j'ai étudiées. Et pour moi, il était très important de faire moi-même un appareil d'enregistrement statistique qui était capable de donner des sens à des formes de valeurs qui sont des formes de valeurs populaires très importantes et qui sont invisibles à le penseur et l'experte qui a conçu les instruments. Et la deuxième chose, est-ce que il y a des formes, des valeurs qui sont enregistrées d'une certaine façon et qui parfois veulent dire une autre chose complètement différente. Par exemple, j'ai mené une enquête sur les ouvrières qui ont participé à la Légion portugaise. Et le gros de la Légion portugaise, c'est une organisation paramilitaire fasciste, pour être clair, ils ont été des ouvrières. Et tu voulais dire, oh, les ouvriers, ils sont avec le fascisme, ils sont militantement défendus la Révolution nationale. Et après, quand tu étudies les archives, tu vois qu'ils sont là pour avoir un emploi, ils sont là pour saboter le fonctionnement de la milice, ils sont là pour voler des choses. Il y a beaucoup de rapports qui veulent dire ça. Et c'est là, c'est très important. Par exemple, il y a des militants qui ont clairement saboté les marches des milices, ont écrit des paroles injurieuses dans le bâtiment même de la Légion. Et si tout reste seulement encadré pour des instruments conçus avec des fins qui pourront être inconscients, mais sont des fins déterminées pour l'institution de recueil des données, c'est une chose. Et par exemple, les intellectuels. La recueil des données des intellectuels qui existent maintenant, c'est parfois beaucoup concentré dans les caractéristiques des œuvres et non des auteurs. Et cela explique, par exemple, que quelqu'un comme Augustine de Besseluis, il a décédé il y a peu de temps, était célébré. Tu vas avoir des biographies qui font l'omission claire de cet engagement politique fasciste pendant la dernière année de l'État de Novo. Et cela veut dire quelque chose. Cela veut dire qu'il y a une histoire partielle, pour ne pas dire sectaire, qui était construit des intellectuels, et si tu ne mènes pas la même enquête qui est transversale, tu ne pourrais pas restituer un vœu d'ensemble de fonctionnement de ces espaces sociaux-là. Et cela, je pense que c'est un peu, se rapporte un peu avec le dialogue que nous avons avec un certain héritage théorique par référence à des autres utilisations par autres groupes. Est-ce que, et pour moi, c'est une opinion personnelle qui n'engage pas peut-être plus rien. Je fonde qu'il pourrait être fort intéressant de discuter, mais certaines discussions sur et certaines utilisations de certains concepts, pour moi, c'est vraiment scolastique, pour ne pas dire herméneutique. Les gens, ils discutent le sens du concept. Et pour moi, je retiens la leçon de Gaston Bachelard. Un concept, c'est une manière d'agir. C'est une manière de l'opérationnaliser. C'est une manière de le faire invalider pour le contact avec la réalité et de le faire progresser. C'est mon vision de cela. Sur la migration de référence beaucoup rapide, j'ai mené avec Juan, après que nous étions en Espagne, nous avons compris qu'il y a une européisation des réseaux et les gens qui étaient en Espagne, ils vont à France, Allemagne, Angleterre, Angola par exemple. Et nous avons aussi mené une enquête avec d'observation à Montbéliard. C'est une opportunité pour visiter le contexte de recherche de Michel et de Stéphane aussi. Nous avons mené des recherches en Freiburg. Nous avons mené dans d'autres endroits. Il reste à publier, je pense, le résultat plus substantif de ces recherches-là. Et il y a, je pense, 6 mois ou quelque chose comme ça, j'ai publié avec Faisal Garba, c'est un collègue. Nous avons publié un gros volume sur ethnicité, migration et classe au Portugal, qui était un pays d'émigration, mais c'est aussi un pays d'immigration. C'est une question très importante. Et cela veut dire que finalement, sur les conséquences politiques, je voulais dire seulement 2 choses. Nous disons qu'au Portugal, nous n'avons pas de partis populistes, mais nous avons un président de la République, c'est l'incarnation parfait d'un certain paternalisme qui, à mon vue, c'est vraiment populiste et c'est intéressant de voir, je pense, je n'ai pas réfléchi analytiquement sur ça, mais c'est une opinion. Et de ce même moment, nous disons, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas d'extrême droit. Oui, mais il y a 70% d'abstention. Ce n'est pas une voice, ce n'est pas un exit, parfois. Et les gens qui nous participent d'une autre façon. C'est une manière aussi de protester, je pense. Et je pense que cela mérite la réflexion aussi. Sur la mobilisation collective, il y a un travail que j'ai mené il y a quelques années sur des grèves générales. Nous avons fait des observations participants dans la préparation et dans la grève générale. Et c'est là intéressant parce que je pense que cela coïncide avec certains commentaires d'Alexis. Et finalement, sur Victor, Virgilio l'a dit, j'ai fait quelques travaux sur ça. Et je pense qu'il y a, dans la presque après les années 30, il y a des références à des études de sociologie, il y a des concepts de sociologie, il y a même des chaires de sociologie, mais c'est une sociologie sans sociologue. Et c'est une sociologie qui a été faite avec des autres fins. C'était une sociologie qui est faite sans chambre de sociologie. Il n'y a pas un vrai débat autour des questions sociologiques. C'était, pour reprendre le terme d'autres auteurs, une sous-sociologie. Et je pense que c'est vraiment important parce que si tu fais seulement une histoire herméneutique de la sociologie, bon, c'est vrai, il y a des concepts, il y a des références, il y a des livres, il y a même des traductions, mais il n'y a pas une vraie pratique sociologique. Il y a, je pense, l'utilisation de connaissances sociales pour servir les fins de la modernisation de l'économie. C'était très fort. Il y a des gens qui sont vraiment engagés à introduire des perspectives et des concepts et des méthodes de sociologie à la fin de la modernisation économique. Et il y a aussi la modernisation administrative, surtout coloniale, qui va inspirer l'utilisation, je pense, vraiment cynique des instruments sociologiques pour, par exemple, gagner, c'est une citation, la bataille de la conscience sur les populations indigènes. Bon, réfuter cela et ces conditions-là, c'est pour moi vraiment difficile de le faire. Et je pense que c'était...
Bon, merci. Je veux seulement ajouter deux ou trois choses. Je pense que, qu'il est important de, d'écouter d'autres interventions, d'autres opinions. Et je dois remercier les commentaires et je veux me fixer, je veux me concentrer dans deux ou trois pistes pour notre propre recherche. Il y a au moins deux ou trois choses que je veux faire et je pense que nous avons les conditions de le faire au Portugal. Et un des sujets dont j'ai plus intérêt, c'est celle de la massification scolaire, de ses effets et implications. Et je crois vraiment que nous devons étudier plus les rapports de genre à ce moment-là et le futur des rapports de genre étant donné les altérations, les transformations très importantes qu'on observe. On observe un écart croissant entre femmes et hommes au Portugal par rapport à la scolarisation et aux effets de la scolarisation croissante, surtout des femmes. On le voit à l'échelle nationale, mais surtout on le voit à l'échelle de, au sein des classes populaires. Donc c'est une question dont j'ai beaucoup d'intérêt. Nous devrons approfondir cette réflexion. Aussi, ça m'intéresse beaucoup pour motif professionnel. Nous n'avons pas des politiques consistantes d'éducation d'adultes au Portugal. Nous n'avons jamais eu ce type de politique. Donc, cette massification, cette croissante participation scolaire qui est surtout une participation des jeunes générations est en train de créer un écart vraiment grand entre générations et on voit déjà dans les statistiques officielles des écarts vraiment grands entre les travailleurs plus âgés et les travailleurs plus jeunes et ça peut être des questions qui peut changer beaucoup les relations au sein des familles, au sein surtout au sein des milieux populaires. Et je crois aussi que ça peut avoir une relation avec la propre relation des personnes avec la politique avec l'état social et c'est un autre aspect que nous devrons continuer à travailler. Vous avez dit que nous avons un état social qui est un état social récent et peu présent dans la vie des personnes et un état qui est peu présent et que est retraité, que recule dans les dernières années, mais on y avait quelques auteurs parlaient d'une société providence, parlaient des communautés qui substituaient des fonctions sociales de l'État aux années 70, aux années 80 au Portugal et qui se délassent, qui s'est détruit un petit peu. Et je pense que, par exemple, l'écart entre générations en ce qui concerne l'école, en ce qui concerne le rapport au futur, le rapport au monde, peut être un élément additionnel pour détruire cette logique communautaire, cette logique d'une société qui remplit des fonctions que l'État n'a jamais remplies au Portugal. Donc, je pense qu'on peut utiliser cette idée pour réinstaurer, pour récupérer une vision sur le Portugal en général, sur les défis et les modèles de développement du Portugal que probablement la sociologie portugaise, à cause de sa fragmentation aussi, de l'atomisation des collectifs de travail, des groupes de recherche, perd un petit peu. Donc je voudrais seulement donner ces deux commentaires pour que on puisse continuer à travailler sur des sujets et sur des indications comme les vôtres. Merci.
J'avais plusieurs questions, mais je voudrais en poser une seule, notamment parce que je sais qu'Alexis sera pas là cet après-midi, et elle reprend une question que je vais reprendre dans la discussion. Non, mais parce que ça touche aux impôts, et comme c'est l'un des rares parmi nous qui a travaillé sur la fiscalité, je pense que ce serait intéressant éventuellement d'avoir son regard à lui aussi sur cette question-là. Ma question générique, mais que je développerai sous d'autres angles cet après-midi quand je discuterai les interventions de Margot Delon et de Dominique Vidal, porte sur la propriété foncière agricole et éventuellement immobilière. Alors, il y a une première déclinaison de cette question pour les intervenants de ce matin et donc ceux qui ont contribué à l'ouvrage, qui est quelle place, est-ce que vous avez étudié de façon précise la place de la propriété dans les classes populaires rurales portugaises anciennes, enfin, c'est-à-dire les enquêtes, est-ce que ça ressort des enquêtes qui ont été menées dans les années 70 et 80? Est-ce que cette question-là, elle est abordée dans les enquêtes que vous avez faites récemment? Et dans quelle mesure, à votre avis, ça contribue à la position de classe et éventuellement aux transformations et au sentiment d'appartenance de classe, et y compris à ce que vous avez appelé la paysannerie ou la ruralité? J'ai été frappée par le fait que vous utilisiez le terme de paysans et paysannerie plutôt que agriculture ou agricole ou rurale. Et l'une des différences que je vois, je suis absolument pas du tout une spécialiste de ces termes-là et de ces mondes sociaux, mais l'une des différences que je vois entre ces trois termes, pour moi, agriculture, ça renvoie plutôt au métier, à la pratique professionnelle d'une activité spécifique. Rural, bon, c'est la densité d'habitat, etc. Et paysan, il y a toute la dimension culturelle, à la fois de la ruralité et de l'agriculture. Et il me semble que dans ces éléments culturels, il y a le rapport à la propriété. C'est pas la même chose d'être agriculteur salarié, c'est pas la même chose d'être agriculteur propriétaire de X hectares ou propriétaire de toute petite parcelle. Et je pense que ça participe grandement, si le rapport à la propriété se maintient, au maintien d'une certaine culture paysanne, malgré la salarisation, malgré l'ouvrérisation, pardon. Donc voilà, je voulais savoir dans quelle mesure vous avez accordé une importance à ça. Et l'autre volet qui est en lien avec la fiscalité, c'est quand je vous entendais parler de démocratisation scolaire, de capital culturel qui va avec cette démocratisation scolaire, et de maintien des grandes inégalités sociales et d'une très forte stratification sociale au Portugal, je me demandais justement dans quelle mesure le fait que vous vous focalisiez sur cette démocratisation scolaire masque, je pense, une particularité du Portugal, une particularité supplémentaire du Portugal par rapport à un pays comme la France, c'est la très faible fiscalité d'une façon générale et en particulier de la propriété foncière. Moi, ce qui m'a frappé il y a quelques années, c'est de découvrir qu'il y a une fiscalité foncière qui s'est tout juste mise en place il y a quelques années, là où en France, c'est quelque chose de très ancien. Donc, je voulais vous interroger là-dessus. C'est-à-dire, il y a plusieurs questions derrière cette comparaison un peu sauvage, qui est dans quelle mesure la démocratisation scolaire, c'est-à-dire l'extension du capital de diplôme à des populations qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent, si parallèlement il y a un maintien des inégalités en termes de capital tout court, et en particulier de capital foncier. Et dans quelle mesure cet état de la fiscalité de la propriété relativement faible, moi mon point de comparaison c'est celui de la France, hein, donc on pourrait peut-être que Étienne et Alexis vous avez un point de vue plus global sur cette place du capital foncier dans les différentes CSP à l'échelle européenne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans quelle mesure cette relativement faible fiscalité foncière historique, mais qui tend à être aujourd'hui un petit peu modifié au Portugal, puisqu'il y a des réformes qui vont dans le sens d'une mise en place de cette fiscalité, non seulement de la propriété foncière, mais également de la transmission. Et là, j'ai très peu de connaissances, mais je crois que les transmissions sont très peu fiscalisées au Portugal. Dans quelle mesure ça induit un rapport à l'État particulier et éventuellement une légitimité plus ou moins importante de l'intervention de l'État, pas uniquement en matière fiscale, mais du coup par la mise en place de différentes politiques publiques dans différents secteurs.
À propos de la question de la fiscalité, le problème c'est que aujourd'hui l'appareil fiscal portugais est très très fort et très agressif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le service de finances, il a eu une réforme. Actuellement, a été fait par un homme qui était le directeur général des finances à l'époque, qui est devenu ministre de la santé dans le gouvernement de la droite, et maintenant il est le dirigeant il dirige la Caixa Geral de Depósitos. La banque publique, il a organisé une réforme du service des finances, et aujourd'hui les finances elles sont partout et ils sont capables d'aller presque on discutait récemment si on aurait de la présence de la fiscalité des finances, par exemple dans les mariages pour récupérer des dettes à l'État. Donc ça, aujourd'hui, il y a eu une espèce de scandale public récent par la présence de la fiscalité aussi à l'autoroute. Le directeur de finances de Porto a présenté sa démission, etc. Bon, c'est là pour dire que le service de finances, il est très très fort, et sa présence aujourd'hui. Mais c'est pas totalement récent. Une dimension importante du soi-disant miracle économique portugais, il passe par l'efficacité des services d'impôts. Le charge d'impôts que les Portugais payent, c'est au niveau du nord de l'Europe maintenant. Donc ça, on a les comparaisons, et surtout, bien sûr, les salariés. Et cela est au centre aussi des négociations politiques qui sont en cours au pays. Donc ça, c'est une question importante. Bien sûr, la propriété foncière, notamment en milieu rural, c'est vraiment intéressant parce que elle était à l'origine de beaucoup de conflits, aujourd'hui encore, mais dans le passé. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un cadre, on pourrait dire, pour être rapide, d'anomie, une crise de reproduction. La propriété foncière, elle jouait un rôle important, même en milieu d'agriculture de subsistance. Mais aujourd'hui, les terres, c'est pour cela que João a mis cette photo sur le champ sans être cultivé. C'est un cadre vraiment d'une espèce d'anomie. Donc, l'intérieur rural, c'est pas une espèce, c'est vraiment une anomie. Donc, ça, c'est l'application de la thèse. Normalement, dans mes cours, je passe les textes de Bourdieu sur le bal des célibataires, parce que c'est l'application à l'intérieur rural portugais. Donc, c'est où la terre elle avait une valeur énorme, mais maintenant elle a une valeur assez limitée. Et donc, c'est vraiment la crise d'un atout. Donc, bien sûr, maintenant on discute beaucoup parce qu'on a eu une crise importante. On sait à cause des feux de la forêt qu'on a eu dans le passé. Maintenant, on discute beaucoup la réforme de la propriété foncière agraire. Et de la forêt, une réforme de la forêt. Et maintenant, on gagne conscience. Mais ce qui s'est passé, c'est surtout l'abandon. C'est l'abandon de la terre. Donc, c'est assez paradoxal parce que beaucoup de migrants, d'émigrés portugais, ont investi l'argent en terre, mais la terre, elle n'est pas cultivée maintenant. Et donc ça, c'est un autre monde. Donc, mais de toute façon, c'est une recomposition significative de la place de la terre dans les villages. Donc, la propriété de la maison, elle reste centrale, bien sûr. Dans notre enquête à Fontercade, on enquête toujours sur la, quand on est en milieu rural ou en milieu industriel, on enquête toujours sur la place de la terre dans les familles. Les gens, les familles, elles ont de la terre en milieu rural ou d'anciens inscriptions rurales, mais elle n'est pas très fortement cultivée. Et surtout, elle n'est pas cultivée en fonction du marché. Donc, et par exemple, en milieu industriel, on parlait beaucoup dans le passé sur l'ouvrier paysan, par exemple, à la vallée de l'Ave, dont on parle dans le livre. Et la présence d'ouvriers paysans, c'est très, très... Elle n'existe plus. On parlait beaucoup de l'importance de la terre comme facteur d'amortissement de la crise, mais... Dans la dernière crise, c'était l'État qui, avec toutes ces limites, mais c'était l'État qui a joué, qui a eu, bon, ils n'ont pas joué beaucoup, mais de toute façon, c'est une réponse lors de la politique sociale. On peut maintenant attendre, c'est mon avis, mais fondé dans les études, qu'on ne peut pas attendre par la terre comme facteur d'amortissement d'une crise comme on pourrait le faire dans le passé, parce que le mode de reproduction, il a vraiment changé. Et donc, l'autre question, c'était la question de...
Le fait que je ne parlais pas de la fiscalité en général, je parlais de la fiscalisation de la propriété foncière.
Oui, mais c'est vraiment un enjeu. Et surtout, Bruno, dans ses responsabilités maintenant, il sait de ce qu'il parle parce qu'il est lié à la commission de l'État qui doit se prononcer sur cette réforme-là. Mais c'est un sujet assez difficile parce que l'enregistrement, il est assez compliqué pour commencer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait vraiment... on sait que les terres, elles ont des propriétaires, mais il y a exactement un problème, il y a une crise de reproduction du rapport à la terre.
Donc. Mais c'est pas grave, on va rien dire. Ma question, elle était à la fois en termes objectifs matériels, c'est-à-dire est-ce que ça permet de reproduire la richesse et éventuellement de contrebalancer.
Ça dépend du statut de la
terre. Oui, oui.
Elle est aussi culturelle. Ce que je veux dire par là, des générations entières qui ont vécu dans une société où il n'y avait pas de fiscalisation de la propriété foncière, je ne suis pas une spécialiste, mais j'imagine que ça crée un rapport à la légitimité de la propriété foncière et le fait que c'est normal d'être propriétaire et que l'État n'a pas à mettre son nez là-dedans. Ça crée un rapport à la propriété sans doute plus facile, voire une espèce d'obligation à la propriété. Par exemple, je serais curieuse de savoir les anciens paysans ou les enfants d'anciens paysans qui sont devenus salariés, ouvriers,
oui.
Quels sont leurs rapports à la propriété ? Alors, pas oui. Les terres qu'avaient leurs parents, mais le rapport à la propriété d'une façon générale en termes de...
Ils ont... Non, en termes de problématiques résidentielles, c'est assez différent. La maison, elle continue à être une question centrale, mais pas la terre à ce niveau-là. Donc, mais la maison, oui, elle continue à jouer un rôle central. Il y a beaucoup de projets migratoires, par exemple, qui passent par... c'est pour construire une maison. C'est pour de toute façon, le taux de propriétaire de maison au Portugal est assez élevé par comparaison au point de vue international. Mais...